tard, Ben Jelloun vient de sortir son dernier livre d'une longue liste, Au pays, aux éditions Gallimard, l'histoire d'un retraité marocain qui a travaillé en France toute sa vie et qui retourne au pays. Il réalise que la retraite est le plus grand malaise de son existence. Une fois au Maroc, il décide de prendre la route un matin, bien décidé à construire une grande maison pour ses enfants. Ce retour au pays sera bien loin de ce qu'il imaginait. Ce livre peut être considéré comme la suite romanesque de l'essai La plus haute des solitudes, paru en 1977, un essai sur la solitude sentimentale et sexuelle de ces hommes maghrébins venus en France pour travailler dans les années 60. Amandine Dumas a rencontré Tahar Ben Jelloun lors d'une présentation de son livre à Montpellier. Il a été question de double culture, d'identité et de racisme.
C'est l'histoire de la condition humaine quand elle arrive vers la fin, et sauf que le personnage principal, ce n'est pas un technocrate, ce n'est pas un cadre de chez Renault, mais un OS, un ouvrier simple, qui a immigré, qui vient du Maroc, qui est venu dans les années 60, et qui va être un ouvrier modèle, qui travaille très sérieusement, très correctement, enfin un homme qui est droit, qui ne cherche pas l'histoire, qui respecte ce pays, parce qu'on lui a dit tu vas dans un pays, tu es invité, donc tu dois être poli, respecter la société dans laquelle tu vas. Enfin, donc c'est un homme qui ne va jamais fauter, qui va faire sa vie, et qui ça va s'habituer à aller tous les jours à l'usine, à avoir un peu ce rituel quotidien. Et puis un jour, un grand malheur va lui tomber dessus, il apprend qu'il va être à la retraite. Et ça va le paniquer, dans la mesure où il n'a pas du tout pensé à ça, ni préparé ce moment difficile qui lui tombe dessus. Et là, il va perdre pied. C'est comme quelqu'un qui est en train de marcher, et puis il tombe dans un ravin.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, Pierre Assouline a dit à propos de votre héros qu'il était musulman, père de famille et marocain dans cet ordre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
Oui, de toute façon c'est un musulman comme l'écrasante majorité des gens de sa génération, des gens simples, modestes, qui ne cherchent pas le fanatisme ni la bagarre. Ce sont des gens qui pratiquent leur islam calmement dans leur coin, qui ne cherchent pas du tout à faire du bruit, donc c'est une génération paisible. Père de famille, certainement, parce que c'est un père de famille très correct, très responsable, qui s'occupe que de ses enfants. Son univers, ce sont ses enfants, et puis c'est tout. Et puis après, marocain, bien sûr, il est attaché à son pays. Il cherche pas du tout à s'installer, ni à s'intégrer définitivement en France. C'est pas son objectif, ce qu'il espérait faire en venant ici.
On a l'impression dans le livre qu'il n'est bien nulle part. Il n'est pas en France comme chez lui, et pourtant quand il retourne au bled, à un moment donné, on a le sentiment qu'il y est un peu seul, qu'il est un peu...
Il est seul parce qu'il il va enfin, dans le livre, il va faire le retour définitif. Ouais. Mais il va le faire seul, sans attendre, sans réfléchir à la limite, sans réfléchir, et suivant un petit peu sa vision quasi délirante de la réalité. Il perd pied, il devient délirant, c'est-à-dire qu'il va aller au Maroc, construire une maison immense, croyant pertinemment, croyant vraiment que ses enfants vont aller s'installer chez lui et vivre avec lui comme lui a vécu avec ses parents et grands-parents. Donc c'est un décalage d'une vie, c'est le décalage d'une vie entre une époque et une autre.
Vous pensez que c'est un problème générationnel
plus que ça, c'est un problème... Qui est une résultante de la manière dont l'immigration des années 50-60 s'est passée. C'est-à-dire que les pays européens ont fait venir des gens pour travailler parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ouais. Et puis on ne s'est pas tellement préoccupé de leur humanité, de leurs conditions de vie quotidienne. C'est-à-dire que personne ne s'imaginait que ces personnes ont une vie en dehors de l'usine. Ce que j'avais décrit dans La plus haute des solitudes, un livre que j'ai publié en 1977, qui est un livre qui rendait compte du vide affectif et sexuel de ces hommes venus travailler ici seuls, sans leur famille. Et c'est un peu un de ces personnages que je reprends ici pour boucler la boucle.
Voilà, donc c'est la suite de ce livre qui est paru en 1977.
C'est un essai, c'était un essai, oui. Et là c'est un roman.
Vous avez eu envie de le continuer ou c'est non, cette problématique
c'est, non, c'était,
qui vous...
c'est-à-dire que c'est... J'observe beaucoup ce milieu, que je suis en contact très souvent avec ces gens, avec ces immigrés. Je les vois vivre, je les vois ici en France, je les vois au Maroc, je les vois dans les routes en Espagne, tout ça. Et ce personnage est assez... Il est un peu la synthèse de beaucoup d'autres personnages que j'ai rencontrés. Et il existe ce genre de personnages. Et on les voit dans une grande tristesse le dimanche, dans des bistrots qui sentent la tristesse et un peu la lassitude.
Donc ce n'est pas une personne en particulier que vous a inspiré ce personnage?
Non,
mais...
non. Non, c'est... Un romancier, il invente, il part bien sûr d'un réel qu'il voit, et puis à partir de là, il imagine le reste. Et il essaie un petit peu d'aller au-delà de ce qu'on voit pour que le lecteur puisse s'identifier et faire un bout de chemin avec le personnage.
Vous écrivez habituellement, les idées vous viennent dans vos rencontres, dans la journée, dans les voyages que vous faites?
Je n'ai pas encore de douane en moi pour savoir à quelle heure viennent les idées, ni d'où ils viennent, ni comment ils viennent. Elles viennent. Je pense qu'un écrivain est toujours en alerte.
Oui.
On ne se repose jamais, on travaille tout le temps. Bon, je me souviens, l'autre jour, j'étais à l'aéroport de Rome et puis et je vois Amos Oz, l'écrivain israélien, avec sa femme assis. Et on allait au même endroit parce qu'on était invités pour recevoir un prix tous les deux. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je travaille. C'est-à-dire, j'observe. Et il a raison parce que ce soit dans un aéroport, dans un train, dans un avion, dans la rue, on est tout le temps en alerte, on regarde, et puis on retransmet ça après d'une façon ou d'une autre. On le retrouve dans nos... Moi, par exemple, même Kundera, je me souviens, une fois, j'ai discuté avec lui sur un poète finlandais, comme ça, qui dans le squelette a été... il était enterré ailleurs, son squelette, on l'avait ramené en Islande. Et un jour, en lisant L'ignorance, je tombe sur la référence à ce poète, parce que c'est vrai que nous sommes tous des bavards et des buvards. On est en train de recevoir tout, de capter ce qui se passe autour de nous et on le redonne après.
Vous peuplez vos romans de personnages qui vous...
Pas seulement, non, il faut quand même qu'il y ait une idée forte au départ, comme il faut qu'il y ait quelque chose qui une vraie locomotive, un thème, un sujet. Et après, c'est pas interdit, ce que je veux dire, c'est pas interdit de puiser dans l'observation quotidienne.
Dans ce livre, vous parlez beaucoup de racisme, comme dans beaucoup d'autres ouvrages. Vous en parlez d'une manière assez différente. Cette fois-ci, c'est une personne âgée qui se remémore toute sa vie et puis toutes ses petites humiliations. Vous avez des parallèles quotidiens avec ces choses-là?
Le racisme, il est partout. Hein. C'est pas... il est partout, aussi bien au Maroc qu'en France, qu'en Irlande, n'importe où on va, il y a le racisme. Évidemment, il y a des, peut-être des sociétés qui luttent plus et qui éduquent plus les enfants contre le racisme. Non, non, je ne dis pas. En France, on fait aussi un travail contre le racisme assez important. Mais lui, il en parle de manière très simple. Il n'en fait pas une affaire.
Oui.
Parce qu'il sait que les Marocains n'aiment pas les Noirs, par exemple. Il le dit.
Oui, voilà, vous en parlez de,
oui,
de
oui,
ces
oui,
choses-là.
Oui, bien sûr, parce qu'il est choqué que... En même temps, il se demande, est-ce que je laisserai ma fille épouser un Noir ? C'est toujours comme ça. Le racisme, malheureusement, c'est une espèce d'environnement, un environnement planétaire. Partout où on va, on trouve les mêmes peurs, les mêmes ignorances. On va en Asie, ils ont d'autres racismes qui s'expriment autrement. Et il n'y a pas que... À ce moment, les gens croyaient qu'il n'y a que l'homme blanc qui était raciste. Et quand j'étais dans les écoles, leur parlais, je dis, mais pas du tout. C'est tout le monde. Je leur donne l'exemple souvent de l'Afrique du Sud, qui était un pays qui a vraiment souffert de l'apartheid, du racisme, que les Noirs étaient humiliés et discriminés. Et que dernièrement, les Noirs, ce sont les habitants d'Afrique du Sud, les ouvriers d'Afrique du Sud, Noirs, ont combattu ou même massacré des Zimbabwéens, des Congolais, d'autres Africains qui étaient venus pour chercher du travail. Et là, ce n'est plus le racisme qui était mis en avant, mais la peur de celui qui va me piquer mon travail, comme on l'a vu dernièrement en Irlande, avec des ouvriers qui ne voulaient pas qu'il y ait d'autres ouvriers qui viennent travailler. Enfin, le racisme, il peut être l'alibi de beaucoup de choses.
Et il est partout.
Oh, bien sûr qu'il est partout. Donnez-moi un pays où il n'y est pas, on va y aller.
On cherche encore.
Et encore, on arrive, on trouvera peut-être que les gens sont bizarres.
Oui. Et pour finir, une question qui serait peut-être un peu plus politique, mais avec ce qui se passe actuellement, avec les politiques d'immigration qui sont quand même vraiment durcies en France, vous auriez des remarques à faire ? Vous avez des parallèles à faire avec votre livre ?
Bon, mon livre, il apporte un témoignage de plus sur cette société, sur cette condition humaine. Il donne un éclairage sur ce qu'est la fin de vie d'un immigré que personne ne remarque. Ce sont des gens qui passent dans la rue, personne ne les voit. C'est ça la question. Actuellement, le fait même d'avoir créé ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale est un scandale. Parce que autant il faut s'occuper de l'immigration et améliorer la condition des immigrés. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'immigration clandestine, mais en amont et non pas après. Et qu'il faut aider les pays pauvres à avoir des investissements pour pouvoir garder chez eux les gens qui sont tentés de partir. Autant on voit maintenant, que ce soit Hortefeux ou Besson, ce qui les intéresse, c'est de dire « j'ai expulsé 30 000 sans-papiers ». Mais il faut expliquer aux gens que les sans-papiers, dans leur majorité, ce sont les immigrés légaux qui sont devenus sans-papiers. Parce que avec le chômage, on ne peut pas, la préfecture de police refuse de leur donner une carte de séjour quand ils n'ont pas un travail fixe. C'est ça le vrai problème. Alors là, tout ça, c'est malheureux, c'est triste, c'est injuste.
Justement, vous rappelez que le héros de votre roman, c'est un homme qu'on a fait venir en France à un moment où on avait besoin de lui pour travailler. Donc aujourd'hui, on est dans une situation inverse. On a plus de chômage et par facilité, beaucoup de gens font des raccourcis en pensant qu'on est raciste.
De toute façon, c'est toujours les pauvres qui payent, qu'ils soient... immigrés ou français de souche, c'est toujours les plus démunis qui payent, c'est pas les cadres. La pauvreté est un élément fondamental de rejet et d'ignorance et de peur. Les gens ont peur des pauvres.
Yeah.
l'optimisme, c'est que tant qu'on peut écrire, et tant qu'on peut parler, ce qui est encore de l'espoir. Si j'étais totalement désespéré, je n'écrirais pas. Donc il y a un espoir de... Aucun livre n'a changé de société. Je ne vais pas changer la société, mais au moins je vais...
Vous essayez d'amener votre petite pierre.
Oui, voilà, dans une grande maison. Bon, si je construis une grande maison.
Vous rencontrez souvent des lecteurs qui vous disent que vos livres changent quelque chose pour eux?
Oui, bien sûr. Non, mais il y a eu des livres... depuis le temps que je rencontre des lecteurs, des lectrices surtout, c'est incroyable, c'est formidable d'ailleurs.
Ouais.
C'est un peu lourd pour moi, mais des gens qui
vivent... Un peu lourd pour vous, c'est-à-dire? C'est une responsabilité?
Non, moi je ne le prends pas comme responsabilité, mais je le prends comme un éloge formidable, ça m'émeut, mais en même temps... je ne me rends pas compte combien je peux parfois participer dans une vie. Parfois c'est par hasard, parfois c'est une personne qui déprime, il lit un de mes livres et puis à la fin, elle sa dépression est moins grave. Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est des choses comme ça fait plaisir.
On a l'impression que vous souhaitez parler à beaucoup de monde au travers de vos livres parce que vos personnages sont changeants, parfois sont jeunes, parfois sont vieux. Riche, pauvre, au Maghreb, en Italie. Donc on a vraiment le sentiment que tout le monde pourrait se glisser dans l'un d'entre eux.
Oui, non, mais ça c'est mon travail d'écrivain. Enfin,
vous aimez bien aller partout.
Je m'intéresse à beaucoup de choses, je suis curieux.
C'était un entretien d'Amandine Dumas avec Tahar Benjelloun, réalisé à Montpellier pour la sortie de son dernier roman, Au pays, paru aux éditions Gallimard. America, I like America, like America.